Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, qui a pour intitulé « La décroissance urbaine, une opportunité pour repenser l'habitat en milieu urbain », est le résultat donc, de 4 ans de recherche au sein du laboratoire MHAVT. Et donc, je vais un peu revenir sur l'essence de ce travail, les résultats que j'ai pu avoir et voir comment ça peut venir aussi alimenter les débats qu'il y a depuis ce matin. Donc tout d'abord, mon travail de recherche s'inscrit dans une réflexion plus large sur la fabrique urbaine en ce début du XXe siècle et sur la place de l'architecture urbaniste justement dans le processus de transformation de la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à revenir sur nos modes de pensée de projeter l'espace urbain face aux crises qui ont marqué les villes et face aux nouveaux enjeux socio-économiques, politiques, urbains ou encore écologiques actuels. Et donc, Détroit, donc, qui est illustré derrière moi, illustre sans aucun doute ces enjeux et l'exemple le plus emblématique justement face à cette nécessité de remettre en question nos modes de développement des villes et nos modes de faire. Et donc, pour ce faire, par rapport à cette question de la fabrique urbaine aujourd'hui, je me suis intéressée pendant ces 4 années sur la pratique de projet de l'architecture urbaniste dans les contextes urbains, connaissant une phase de décroissance urbaine. Et donc, ce matin, on a effectivement parlé de décroissance, mais là, c'est un tout autre sujet auquel je me suis confrontée. Et pour que nous ayons tous la même définition, j'ai repris celle proposée par Emmanuel Cunningham-Sabot, Hélène Roth et Sylvie Foll, qui désigne, je cite, un processus conjoint de déclin économique, de déclin démographique et d'affaiblissement économique qui affecte de manière structurelle deux éléments constitutifs de la ville, la densité de population et les fonctions économiques générant d'importants effets sociaux. Et cet intérêt pour ces villes en décroissance émane de 3 constats. Donc tout d'abord, ce sont des villes qui sont des opportunités pour se confronter à des contextes urbains regroupant toutes les problématiques des villes en crise. Elles permettent ainsi d'observer des pratiques intégrant toutes les contraintes et difficultés auxquelles ces contextes sous-tendent. Ensuite, les architectes urbanistes sont amenés de plus en plus à se confronter aux villes en décroissance, et nous sommes encore peu formés à répondre à ces enjeux-là. J'ai pu faire le constat, dans le cadre de mon diplôme en architecture, en traitant de la ville de Soulina, qui est illustrée derrière moi, mais aussi dans l'enseignement au sein des AMSA, dans la manière d'appréhender le projet, c'est vrai que comment penser la décroissance est un sujet encore peu traité. Ensuite, et pour finir, les villes et régions en décroissance sont des territoires d'observation intéressants pour questionner l'habité aujourd'hui. Et c'est sur ce point particulier que je vais revenir dans ma présentation aujourd'hui. Donc l'état dégradé de la ville tend à rendre en fait invivable, voire inhabitable, la ville et contribue au départ des activités économiques et des habitants. Donc déjà on a des dynamiques de déclin démographique et économique qui leur sont propres en fonction des contextes. Mais l'état auquel s'engendre la dégradation de la ville. Et cette dégradation de la ville, donc un effet boule de neige, en fait, vient alimenter aussi et participer au déclin, à cette accentuation en fait, des dynamiques de déclin démographique et économique. Et pour vous donner une idée globale en fait, de ce que est la ville en décroissance, donc derrière moi, vous voyez une espèce de planche contact de différentes photos prises dans mes différents terrains et expériences de projet depuis 2011. Donc on retrouve autant la Roumanie, la France, les États-Unis, l'Allemagne ou encore la Belgique. Et donc face à ce contexte, deux questions en fait, se posent à nous en tant que concepteurs aménageurs. Donc c'est que là, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je vais apporter vraiment ce regard plutôt du côté conception architecturale urbaine et aménageur. Donc tout d'abord, comment faire face à cette situation, voire la dépasser. Donc ce que j'entends par dépasser, c'est accepter et penser la décroissance. Et ensuite, comment faire pour permettre aux habitants de continuer à rester dans ces territoires-là et de continuer à les habiter. Donc, depuis les années 2000, on peut voir en fait que les villes en décroissance sont devenues de véritables terrains d'exploration et d'expérimentation auprès des chercheurs, mais aussi auprès des collectivités locales, des architectes, des urbanistes, ou encore même de manière très locale, des artistes et des habitants. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une sorte de synthèse en fait de ces différentes dynamiques actuelles qui ont enclenché ce retournement et cet intérêt sur cette question de la décroissance. Donc tout d'abord, la recherche urbaine a largement contribué à cette appropriation du sujet. Donc parmi les éléments déclencheurs, et notamment par le regard de l'architecte, il y a eu le programme allemand Shrinking Cities, dirigé par l'architecte-chercheur Philippe Oswald au début des années 2000. En fait, son travail donc, est assez connu, donc il y a deux livres intitulés Shrinking Cities, plus un atlas, plus un site internet, où justement on voit tout le travail qui a été effectué. Donc l'un des enjeux de cette recherche était d'identifier les pratiques de projet et les réflexions innovantes menées dans les territoires en déclin depuis les années 1970. Donc il n'y a pas une concentration spécifique sur ce qui se passait dans les années 2000, mais vraiment on a essayé de balayer toutes les pratiques qui pouvaient exister dans les territoires en déclin au sens large et pas spécifiquement aux villes en décroissance depuis ces années-là, voire même avec des textes plus anciens de théoriciens en architecture, en urbanisme. Et dans ce travail, donc, c'est que les villes en décroissance étaient considérées donc, par rapport à la problématique de recherche posée par Oswald. La ville en décroissance était considérée comme un nouveau terrain de jeu pour explorer de nouvelles pensées architecturales et urbanistiques. Et Oswald considérait ces territoires vraiment comme des opportunités pour y envisager de nouveaux modes de vie aujourd'hui. Donc, revenir donc, par rapport à une approche spécifique ultra localisée dans un contexte des villes en décroissance, comment ça peut venir re-questionner finalement nos modes de vie aujourd'hui. Et après, donc, bien sûr, ce programme allemand, d'autres programmes internationaux ont vu le jour, en particulier en Europe. Et en France, grâce à l'ANR Shrinking Cities, notamment, donc, peut-être que certains connaissent. Et donc tous ces travaux de recherche ont participé au débat et ont permis à ce que la décroissance donc, soit mieux connue et acceptée, et en particulier auprès des collectivités où certains chercheurs, en tout cas en France, interviennent régulièrement. Ensuite, dans cette dynamique de recherche, on peut voir aussi depuis plus de 15 ans des projets conduits dans ces territoires en déclin. Que ça aille de la stratégie urbaine, de concours d'architecture ou encore d'initiatives habitantes. Donc il y a une multiplicité d'actions qui sont visibles sur ces territoires, avec des importances plus ou moins grandes, avec un impact plus ou moins important selon les territoires, et notamment dans quelle dynamique se trouve aussi la ville d'intervention. Donc on aurait pu voir aussi en particulier l'émergence de stratégies territoriales et stratégies urbaines qui marquent aujourd'hui véritablement le débat sur la ville en décroissance et sur la manière d'intervenir, où là sont explorés des modèles urbains que je ne dirais pas forcément innovants parce qu'on vient sur la ville compacte ou la ville archipel, donc c'est des sujets qu'on retrouve autant dans le Grand Paris ou dans des réflexions actuelles sur même les métropoles, mais qui ont une approche un peu particulière sur ces territoires-là, où l'une des données clés dans la définition de cette stratégie, c'est bien sûr la vacance et les délaissés urbains. Et là où se trouvent finalement les habitants restants sur ce territoire, qui vont orienter de manière forte certaines stratégies. Et ce qui est intéressant à voir dans ces interventions qu'on observe finalement depuis ces 15 dernières années, c'est que les réponses ne cherchent plus à aller forcément contre la décroissance, en réduisant au maximum la perception du déclin sur l'espace urbain et en redynamisant le territoire, comme on a pu le voir notamment dans les années 80-90, où on était dans des dynamiques de reconquête et de reconversion des friches industrielles en particulier, où là on était dans des dynamique de projets phares et de marketing urbain très fort. Là, on est face, un peu, je trouve, dans ces dernières années, dans une évolution où on est plutôt avec faire avec, c'est-à-dire en acceptant la situation et en réfléchissant au potentiel que la décroissance peut avoir pour redéfinir et améliorer l'habitat, et notamment à travers les délaissés urbains qui offrent une ressource écologique et foncière non négligeable. Et cette nouvelle appréhension de la décroissance illustre un changement de paradigme concernant la mutation de ces villes aujourd'hui. Et faire avec, ce n'est pas forcément une réponse défaitiste, mais il illustre plutôt une réelle volonté de penser différemment le développement des villes, souvent basée sur l'expérimentation de nouveaux modèles urbains, avec des réflexions portant autant sur la gouvernance territoriale et l'implication habitante, que sur l'enrichissement de la biodiversité et l'amélioration des systèmes écologiques, ou encore l'accès aux énergies et aux ressources de première nécessité. Donc, quant à mon travail de recherche, je ne traite pas spécifiquement du mouvement des villes en décroissance, des villes en transition, excusez-moi, à proprement parler, bien que le sujet m'intéresse. Mais par contre, les contextes urbains particuliers auxquels j'ai pu me confronter depuis 2011, donc l'année de mon diplôme en architecture, m'ont permis néanmoins d'aborder certains sujets liés à ces débats sur les villes en transition. Et du coup, par rapport à ma présentation aujourd'hui, nous aborderons ici ce concept de transition plutôt sous l'angle du processus d'évolution et d'adaptation de la ville, qui sont en premier lieu, qui sont au premier plan dans la redéfinition en fait du devenir des villes en décroissance auxquelles j'ai pu être confrontée depuis toutes ces années. Et pour que justement cette transition puisse se faire, Initiative Habitante et comme projets architecturaux, urbains et paysagers participent à la construction de cette nouvelle habitabilité du territoire pour permettre aux individus de le réhabiter. Donc pour observer l'évolution et l'adaptation des villes en décroissance, donc dans le cadre de ma recherche, je me suis plutôt focalisée sur des projets touchant la matérialité morphologique de l'espace urbain qui impulse une mutation profonde du tissu urbain dans sa forme comme dans ses usages. Et à partir de ce point de départ, je me suis donné comme problématique de recherche quels enseignements pouvons-nous tirer de ces expériences pour la pratique de l'architecte urbaniste, comme dans l'objectif d'imaginer la ville de demain. Et à partir de cette problématique, on s'est donné comme hypothèse principale que les nouvelles pensées architecturales et urbaines émanant des démarches de projets proposant une restructuration du tissu urbain participaient à la formulation de nouvelles formes d'habiter les territoires et permettrait de penser différemment la fabrique urbaine en ce début du XXIe siècle. Donc là, je vous donne quelques pistes pour que vous puissiez comprendre le cadre de ma recherche. Et du coup, pour y répondre, c'est vrai que je ne me suis pas concentrée sur un terrain, une ville spécifique, mais plutôt j'ai lancé ma recherche par le projet et par une analyse de projet, donc pas comparative, mais plutôt une mise en discussion parce que les projets étaient tellement différents et les contextes politiques, économiques, culturels étaient tellement différents que la comparaison était difficile à mener, sachant qu'on pouvait autant, dans mon corpus de projet, il y avait autant des démarches habitantes qui impulsaient une réelle mutation du tissu urbain que des grands projets d'envergure d'échelle urbaine impulsés par des collectivités locales fortes. Et donc ça m'a amené à travailler autant sur des projets réalisés que théoriques en France, en Allemagne et aux États-Unis. Donc la France, bien sûr, c'est mon lieu de recherche et où, en tant qu'architecte urbaniste, je suis amenée aussi d'intervenir. L'Allemagne, par rapport à ces sujets-là, sur le contexte européen, sont les plus avancés en termes de conception architecturale, urbaine et paysagère. Et aux États-Unis, parce que cette question-là est posée différemment, parce que le contexte politique et culturel est tellement haut que les démarches qu'on peut observer sont opposées, je dirais même, en tout cas par rapport à ce que j'observe au contexte européen. Et donc, comme je vous viens de le présenter, donc cette sélection de cas ne s'appuie pas forcément sur un type de projet, mais plutôt sur un type de démarche, ce que j'ai appelé le remodelage urbain. Et donc, nous définissons le remodelage urbain comme un processus de restructuration de l'espace urbain, transformant simultanément l'ensemble des composants du tissu urbain. Donc, ce que j'entends par là, donc, c'est le bâti, le parcellaire, les usages. Donc ce remodelage est une réponse urbanistique aujourd'hui observée pour répondre à la fois à des volontés politiques, à des besoins de première nécessité à l'échelle de l'individu, afin d'adapter et de redimensionner l'espace urbain. Nous considérons le remodelage urbain comme un générateur de nouvelles qualités spatiales, mais aussi de nouvelles habitabilités de l'espace en participant ainsi à l'adaptation et à la résilience des tissus urbains face aux nouveaux enjeux démographiques et à l'occupation réelle de l'espace par les habitants et les activités, en favorisant une meilleure gestion de la vacance et des espaces libérés, mais aussi en redéfinissant l'environnement urbain pour qu'il soit de nouveau habitable et vivable pour les populations restantes. Et donc, par rapport à nos travaux et à la problématique soulevée par cette recherche, donc, je vous propose plutôt de revenir sur deux cas, de regarder comment en fait ces projets participent justement à la réhabilitation de la ville en décroissance, en revendiquant une réelle volonté d'habiter différemment la ville. Donc, ces deux cas, donc, le premier c'est le cas de Dessao et le plan guide du corridor paysager, le second cas c'est celui de Détroit et le projet communautaire du quartier de Redfern. Donc là, on est vraiment sur deux projets très, très différents. Donc tous deux assument une réflexion portant sur la décroissance de la ville et proposent une démarche de restructuration urbaine, voire de redimensionnement et de contraction urbaine. Ils participent à impulser une réorganisation des individus dans l'espace urbain et cherchent avant tout à améliorer le cadre de vie des habitants. Donc faire une comparaison, comme je l'ai dit avant, est assez difficile parce que, comme vous pouvez le voir, les acteurs sont peut-être totalement autres. Donc déjà, on est sur des échelles d'intervention qui sont très différentes. Donc à gauche, le cas de Dessau, donc on est dans une réflexion d'échelle urbaine, à l'échelle de la ville. Alors que dans le projet communautaire, on est vraiment sur un site ultra-localisé sur un secteur de Détroit. Ensuite, en ce qui concerne les acteurs impliqués, donc on va dire que Dessao est plutôt dans une réflexion à un top-down. Donc là, c'est une dynamique d'échelle encadrée par la municipalité, accompagnée par le Land et l'État sous différents aspects, mais quand même avec une volonté d'impliquer les habitants dans la programmation urbaine et dans l'aménagement de l'espace urbain. Et quant à Détroit, on est plus dans une démarche bottom-up. Donc là, ça vient uniquement des habitants, sans accompagnement des acteurs politiques sans accompagnement d'acteurs politiques. Donc c'est deux diagrammes que vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est font la synthèse en fait du jeu d'acteurs en fait de ces différents projets que j'ai réalisés dans le cadre de ma recherche et qui a été assez difficile, en tout cas pour le cas des SAO, parce que ça demandait une multiplication d'acteurs, donc la ville, les architectes, les habitants, les bailleurs, l'IBA. Donc on avait un cadre assez intéressant. Mais aussi, on est sur des systèmes où les financements sont totalement... différents aussi, où on est avec des sous, des apports de l'État dans le cadre des SAO et des actions plutôt liées à des donations de fondations, de bénévoles dans le cadre de Détroit. Donc quand on m'a invité à venir parler justement de mon travail, l'enjeu c'était aussi de montrer donc, dans ces dynamiques de ville en décroissance, cette dualité en fait, qui existe entre des actions fortes soutenu par les collectivités, mais avec une réelle volonté de transformer radicalement l'espace urbain. Et ces initiatives habitantes, où mine de rien, on est dans les mêmes objectifs, c'est-à-dire de transformer, à l'échelle d'un quartier par exemple, de transformer le tissu urbain pour améliorer le cadre de vie des habitants. Donc je vais commencer par vous présenter donc, le cas des Dessao. Donc je vais avoir plutôt une approche descriptive, analytique des différents cas pour que vous puissiez comprendre toutes les dimensions que ces transformations urbaines sous-tendent. Donc d'abord, pour resituer, Dessao se trouve dans le Land de Saxe-Anhalt, dans une région dite en décroissance, qui a perdu entre 1989 et 2000 près de 1,5 million d'habitants. Et les causes de cette décroissance sont multiples. Donc ça vient autant de la transition démographique et politique que la désindustrialisation, que le départ des habitants vers les périphéries, ou encore dans la partie à l'ouest du pays. Et cette région a la particularité d'être le terreau de nombreuses réflexions sur le sujet de la décroissance urbaine depuis les années 2000. Donc, tout d'abord, grâce au programme International Shrinking Cities que j'évoquais précédemment, qui était notamment soutenu par la fondation Bauhaus qui se trouve à Dessau, aussi par le programme IBA, Urban Redevelopment Saxe-Anhalt, qui s'est déroulé entre 2002 et 2010, qui a permis de mettre en place une réflexion à l'échelle du Land sur ces villas pour amorcer des réflexions nouvelles sur ce que c'est habiter la ville en décroissance et du coup accepter et envisager des stratégies urbaines, on va dire, innovantes. Et un troisième facteur aussi faisait qu'on est dans un cadre plutôt favorable pour réfléchir en tout cas sur la décroissance, c'est que de nombreuses villes de la région ont bénéficié du programme Stadtanbauhaus, donc c'est une aide à la restructuration urbaine, un financement land d'État pour la restructuration urbaine et du coup accompagner ces villes en décroissance dans la démolition, rénovation du bâti. Et du coup, donc, Dessau, donc le cadre Dessau se trouve dans une démarche réflexive qui est des fois déjà localement très fort, mais aussi d'ampleur nationale, et dans un terreau justement où les réflexions à l'échelle européenne sont les plus significatives. Et pour certains chercheurs, même américains, le cadre de Dessau est vraiment l'exemple de ce qu'est un projet de ville en décroissance et de penser de la ville en décroissance. Et notamment par rapport à ce propos, je cite Brent Ryan, qui lui regarde ça des États-Unis et qui a un regard aussi critique par rapport à son contexte américain, mais qui s'intéresse fortement à ses expériences allemandes. Donc, quant à la ville de Dessau, donc c'est vrai qu'elle est connue pour avoir accueilli l'école du Bauhaus, mais elle a été aussi marquée à deux reprises au long du XXe siècle par l'abandon et la démolition. Donc, par rapport, une fois à la Seconde Guerre mondiale, où elle a été rasée à peu près sur 80% de la ville, ensuite elle s'est reconstruite, et aujourd'hui, elle connaît une décroissance urbaine depuis 25 ans, et elle a perdu depuis près de, donc entre 1990 et 2005, près de 25% de sa population, et déclin démographique qui est encore existant. Donc dans ce cadre global, donc en 2001 a été imaginée une stratégie urbaine pour accompagner la ville de Dessau, donc l'amorce d'une réflexion de cette stratégie, donc accompagnée par la fondation Bauhaus et l'équipe organisatrice de l'IBA. En amont, au fil du démarrage officiel de l'IBA, Dessau avait été déjà sélectionnée comme terrain potentiel et du coup, en amont, des réflexions commençaient à être mises en place, et notamment donc la municipalité accompagnée de ces deux acteurs ont commencé à développer le concept de ville archipel, donc appelée Urban Cores Landscape Zone, où la stratégie s'inspire des réflexions de la ville archipel, notamment conduite en Allemagne et à Berlin dans les années 70 par Mathias Mungers et sur Berlin donc avec Rem Koolhaas. Donc c'est un projet, notamment l'ouvrage était ressorti en 2013, un ouvrage sur ce sujet, La ville dans la ville, Berlin, l'archipel vert. Donc ce projet est un peu un des premiers projets de décroissance, en tout cas en termes de conception architecturale urbaine, de décroissance. Donc justement, tout à l'heure, on revenait sur l'historique de des interventions par rapport à la ville en transition. Donc moi, j'essaie de faire un historique du projet architectural à Rhin et au Marne, la ville en décroissance. Et ce projet sur Berlin de Ungers est un peu l'ancêtre. Donc un des projets de penser la décroissance et qui va autant influencer la ville en décroissance aujourd'hui, mais qui revient aussi dans les débats sur les métropoles en ce moment. Donc dans le cas des Sceaux, donc l'objectif et par rapport à ce concept de ville archipel, c'était d'imaginer une autre gestion possible de la ville en décroissance, en stabilisant et en renforçant certains noyaux urbains, tout en proposant un nouvel environnement urbain, naturel et paysager, en cœur de ville, en s'appuyant sur les espaces désertés qui pouvaient être démolis, qui sont souvent d'anciennes zones résidentielles et de zones industrielles. Donc là, sur l'illustration derrière moi, c'est une synthèse en fait de cette stratégie de ville archipel qui était imaginée. Et la spécificité de cette stratégie, donc, qui a une pensée vraiment multiscalaire, donc de l'échelle de Léville jusqu'à la parcelle. Donc cette stratégie a été de proposer en fait une restructuration de la ville à partir d'un cœur de ville, d'un nouveau type, qui est un corridor paysager, donc c'est ce que vous voyez derrière moi illustré en violet. Et qui vient aussi redéfinir le rapport plein-vide dans l'espace urbain. Et ce corridor, en fait, va faire le lien entre les différentes polarités et entre les différents territoires, donc entre le cœur de la ville et les périphéries. Et en reconnectant notamment la ville avec la rivière. Donc ce corridor qui est imaginé, et ça va être la deuxième phase, en fait, la mise en application de la stratégie. Donc on a une stratégie globale, et sa mise en application va passer justement par la définition de ce corridor paysager, qui va être un peu pensé comme le nouveau catalyseur de la vie urbaine, en regroupant des espaces et des usages qui permettent de fédérer les habitants. Donc en fait, au lieu que le cœur de ville soit le centre-ville, en fait, c'est ce corridor. L'objectif, c'était que ce corridor devienne la rotule, en fait, de la vie urbaine. Donc ce corridor a été vaguement dessiné en 2001, au moment de la définition de la stratégie urbaine, mais a été acté, donc en fait, son opérationnalité s'est faite en 2003, en fait, quand le périmètre du corridor a été intégré dans le master plan, où là, des zones ont été dessinées, délimitées, pour implanter ce corridor paysager. Et en 2005, en fait, ce corridor a été. Donc, on est passé à une autre étape. Donc, après le master plan, donc, il y a eu le dessin et la conception de ce corridor, qui a été lancé en 2005, et qui fait une superficie de 90 hectares. Et ce plan, en fait, l'illustration derrière moi fait une synthèse, en fait, des différentes interventions qui ont été menées depuis cette période-là. Donc cette stratégie urbaine qui s'appelle Plan Guide du corridor paysager avait pour objectif de coordonner les différentes interventions de démolition et d'aménagement des espaces ouverts et espaces publics. Bon, ceux imaginés donc, dans l'IBA, donc c'est ce qui fait un peu toute la complexité entre la stratégie urbaine et le plan corridor et aussi d'autres actions simultanées qui étaient faites dans le cadre de l'IBA et qui vient alimenter en fait la définition de ce corridor. Donc, qui sont un cheminement piéton qui va traverser l'ensemble du corridor paysager, donc d'est en ouest, du nord au sud, excusez-moi. Et l'intégration d'espaces publics collectifs, coopératifs, le projet 400 m² des SAO. Et donc là, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est que ce plan guide fait la synthèse à la fois d'une réflexion globale, mais aussi d'une réflexion portée avec les habitants, dans une volonté de gérer différemment en fait, ces espaces ouverts et sur le long terme. Donc, ce plan guide traite donc, des espaces ouverts et du paysage en pensant comme le lien d'une gestion simultanée de la dénensification, l'évolution des repères visuels et de la réappropriation des anciens espaces abandonnés par les habitants. Et donc, dans ce travail de corridor, donc là ce que vous voyez sur les illustrations derrière moi, donc l'un des enjeux quand même de ce corridor, ça va être la définition des espaces ouverts hein, qui vont se démultiplier dans l'espace urbain. Et donc là c'est des échantillons en fait, comment entre 2000 et 2015 en fait on a eu cette évolution en fait de dénensification et de nouveaux types d'espaces qui ont émergé dans la ville de Dessau. Et ces différents types d'espaces ouverts ont été aménagés donc, autant par des barques, des espaces de loisirs et de repos, ou encore tout simplement des prairies urbaines. Donc ces prairies sont plutôt sont implantées plutôt sur les grandes parcelles et prennent l'apparence de vastes surfaces couvertes de plantes herbacées qui demandent peu d'entretien et participent à la reconstruction écologique des sols. Donc là, on est dans une démarche de renaturation. Donc cette évolution de Dessau passe par une véritable renaturation de l'espace urbain. Et c'est dans la définition de ces espaces ouverts, en tant que nouveaux, espaces collectifs et coopératifs, que va être envisagé donc des projets avec, avec les habitants, qui, donc le projet 400 mètres carrés. Donc en fait, ce projet 400 mètres carrés, donc c'est ce que vous voyez ressortant de ces photos, donc font partie, donc ce sont des initiatives imaginées dans le cadre de l'IBA, où et ben pour trouver, pour imaginer on va dire, les espaces publics de demain et puis permettre aux habitants d'être, de se réinvestir l'espace public, on attribuait des lots de terrain donc en accord avec les propriétaires sur ces espaces ouverts créés et où, en appui avec les architectes station, de l'agence Station C23 qui avait en marche, qui devait faire le plan guide, et les architectes de l'IBA devaient définir une programmation adaptée à petite échelle pour que les habitants puissent se réinvestir et avoir ces parcelles. Donc c'était pas des parcelles achetées, mais c'était plutôt, on va dire, données. Laisser en tout cas en en communiquant avec les propriétaires, et du coup les propriétaires étaient en accord avec, avec ça. Et donc des petits projets de jardins, d'espaces de jeu, de skatepark ont vu le jour dans ce cadre-là. Mais sur le long terme, c'est ça n'a finalement pas marché, parce qu'une fois que l'IBA c'est terminé. En 2010, avec un changement de politique de la ville à ce moment-là, en fait, très peu de ces espaces qui ont été imaginés à cette époque-là ont perduré dans le temps. Mais finalement, donc j'étais un peu déçue. Enfin, quand j'ai découvert le projet d'Essao, pour moi, c'était un peu le projet où justement on avait ces acteurs politiques très présents avec ces initiatives habitantes, et pour moi c'était un peu l'exemple de projet où il y avait enfin quelque chose qui se faisait à l'interaction de ces deux échelons. Et en fait, j'étais un peu déçue au final de voir que sur long terme, si pour différentes raisons, s'il n'y avait pas justement les acteurs politiques impliqués dans ces actions-là, ça n'avait pas perduré. Mais par contre, quelque chose dont j'avais moins conscience quand j'ai appréhendé ces terrains et des SAO, mais qui me paraît tout à fait intéressant sur la manière d'envisager finalement les bilans des croissances, et notamment par rapport au débat aujourd'hui, c'est que c'est notamment sur la question du sol et du statut du sol. Et justement dans cette transformation d'espace bâti en espace ouvert, et en particulier du concept de réserve écologique, où en fait, après démolition du bâti et traitement du sol, on a des espaces, en fait, une vraie réflexion sur ce que c'est ces espaces renaturés dans l'espace urbain, et qui participent, avec une volonté concrète de transformer le cadre urbain et de redéfinir justement des rapports entre faune, flore et système écologique dans l'espace urbain. Avec, du coup, avec ces espaces ouverts qui viennent redéfinir un élément structurant de l'espace urbain, et en créant une infrastructure verte nouvelle en milieu urbain. Vu qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais arriver sur le cas de Détroit. Donc je pense que tout le monde connaît la situation actuelle de Détroit. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur ça, mais je vais peut-être plus entrer directement sur justement ce qui fait la différence avec Dessau. C'est qu'en fait, on est face à des actions... on peut voir en fait justement qu'un certain désinvestissement justement de l'action publique et justement les habitants ne voyant pas les autorités publiques améliorer leur cadre de vie ou leurs conditions existantes, certains habitants vont commencer justement à intervenir par eux-mêmes sur leur environnement urbain. Et donc certaines communautés vont commencer à dépasser la situation en se réappropriant l'espace de vie, et ainsi à le réhabiter en faisant avec le déjà là et en l'adaptant à leurs besoins. Donc ce qui est intéressant d'observer, c'est que les aménagements ne se concentrent pas uniquement donc, sur l'espace public, mais on est sur un... Donc, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est sur une réelle volonté de transformation du tissu urbain, avec destruction du bâti, même remembrement foncier, évolution des statuts des sols, et développement de nouveaux usages et de nouvelles activités. Et néanmoins, ça reste des actions qui sont imaginées donc, sans plan d'aménagement, sans conseil parfois même de spécialistes, et du coup, ça apparente plutôt à des formes de bricolage urbain. Et donc, ça... Et dans ce qu'on a, dans ce que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse, donc je me suis intéressée particulièrement à l'intervention des moteurs City Blockbuster, qui travaillent sur un périmètre assez large au nord-ouest de Détroit, et qui en fait ont commencé à intervenir à partir des années, à partir de la fin des années 80 justement, pour répondre à la vacance. Et du coup, face aux problèmes d'insécurité, d'insalubrité. Et donc, l'objectif, c'était d'intervenir sur le bâti pour stabiliser et redynamiser la vie de quartier, ainsi que pour redonner un cadre de vie correct. Donc, l'initiative, au début des années 80-90, c'était vraiment de gérer ce bâti vacant. Et petit à petit, en fait, donc, en impliquant les habitants, et donc, dans une logique communautaire, donc à l'échelle de la communauté du quartier, soutenue par l'organisation des Motor City Blockbuster. Et donc, cette transformation se fait donc, par l'organisation, mais aussi en impliquant des écoles, des sportifs, tout type d'acteurs qui souhaiteraient intervenir dans cette dynamique-là. Donc, avec autant un travail pédagogique que aussi d'implication dans la vie de quartier. Et petit à petit, en fait, ce qui était intéressant dans ce travail de remodelage urbain, c'est qu'on est passé donc, d'actions un peu éparses sur le territoire à une réflexion plutôt ultra-localisée sur Old Redford, donc, qui est le cœur du périmètre d'intervention, où là, on est entré à partir des années 2000 dans une réflexion de redéfinir un cœur de quartier, avec dans un premier temps, donc, redéfinir donc, un fond bâti. Donc réoccuper les bâtis existants pour y implanter des activités plutôt culturelles. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir sur la carte le long de cet axe nord-sud, avec différents restaurants, cafés et réappropriation du théâtre. Et puis, à partir des années 2010, fin 2000-2010, on a vu un travail plutôt dans ce cœur de quartier. Donc on voit une deuxième phase d'appropriation avec le nouvel objectif, de réaliser une ferme urbaine avec, en collaboration avec le collectif Fertile Grande Collective. Et donc l'objectif était là de répondre, en plus de restructurer le quartier, à une volonté d'avoir sur place toutes les étapes de la production alimentaire, donc de la plantation jusqu'à l'acconditionnement du produit, leur vente et un espace de formation. Donc avoir tout sur place. Parce qu'en fait, l'un des problèmes liés à ces populations-là et à Détroit, mais c'est pas que spécifique à Old Redford, c'est spécifique à de nombreuses polarités dans la ville, c'est que beaucoup de populations sont déconnectées des infrastructures de transport, donc n'ont pas accès forcément à la voiture ou au transport en commun, et à proximité, n'ont pas non plus, donc c'est un désert alimentaire, donc ils n'ont pas non plus accès aux denrées et et donc l'objectif, c'est de se définir un peu comme une île urbaine, en fait, dans ce système global de Détroit, et de devenir autonome, avec une réflexion qui ne va pas seulement sur les questions alimentaires, mais aussi sur les questions d'énergie. Donc ça, c'était pas encore en route, mais en tout cas, c'est discuté. Donc vraiment dans une pensée globale de l'autonomie. Donc là, les schémas, donc c'est un zoom justement où vous pouvez voir donc sur l'image du haut le remodelage urbain donc entre 2000 et 2015, donc avec un processus de réoccupation, de transformation du parcellaire, avec un dédensification et remembrement foncier, mais aussi avec une évolution des usages. Donc ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on est quand même face à une évolution même de la typologie du tissu urbain par une dynamique de remembrement français où on passe d'un espace bâti à un espace productif, voire même un espace qu'on a appelé collectif et pas public, ce qui en fait une très grande différence. Donc c'est des espaces qui sont ni publics, mais qui sont ni privés, mais qui appartiennent à la communauté, donc c'est un groupe identifié. Et du coup, on a une forme de collectivisation du sol en fait en tant que bien commun au sein de la communauté. Et ça, c'est aussi un élément très important à retenir par rapport à cette à Détroit. Donc, j'ai presque fini. Du coup, pour revenir sur cette question-là, donc on est quand même sur un projet qui, depuis 89, donc ça fait presque 20 ans qu'en fait ce processus de transformation est mis en place au sein d'une communauté, donc c'est un processus quand même qui est très long, mais qui, mine de rien, est très dépendant des aides et des donations que l'organisation va pouvoir recueillir, parce qu'ils ne sont pas financés par les collectivités et... les collectivités territoriales, et en plus, donc c'est assez fluctuant. Donc, ce projet de ferme urbaine, quand j'ai pu visiter le terrain en 2014, donc qui venait tout juste de démolir le bâti et de mettre le sol en friche le temps qu'il puisse, de mettre le sol en friche, mais par contre, la phase suivante de développer l'agriculture était encore en attente, même s'il y a une réponse à un besoin urgent. La réalisation est beaucoup plus lente en fait que par rapport aux besoins immédiats. Justement parce que les partenariats sont moins à mettre en place, l'argent est difficile à récolter. Donc cette question financière est quand même très marquante dans la faisabilité du projet. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils baissent les bras ou qu'ils abandonnent. Ils ont différents petits projets simultanés. Et puis dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vont continuer le projet. Donc, on a vu Old Redford, mais c'est une situation qui est vive dans de nombreux quartiers à Détroit. Donc, il y a aussi l'exemple de Meldrum Street, avec Earthwork Urban Farm, qui aussi ont une réflexion d'échelle de quartier, à l'échelle d'un îlot, justement, où on est de la production jusqu'à la revente, avec un accompagnement des habitants dans ce processus. Et puis d'une manière plus large quand même, on voit des projets de jardins partagés, des potagers, des jardins communautaires, des fermes urbaines qui prennent forme à travers la ville. Mais ça reste à chaque fois des actions ultra localisées et qui n'émanent pas forcément dans une réflexion, en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs, les habitants ou les différents acteurs. Il n'y a pas de réflexion, on va dire, globale, de mise en réseau en fait de ces différents acteurs pour y avoir une réflexion globale, qu'est-ce que c'est là. Que ce soit la production d'énergie ou la production agricole dans ce territoire. Et mine de rien, en tout cas sur les deux cas américains de Détroit que je vous ai montré, on est dans des logiques de survie de la population plutôt que dans un... Donc il y a un engagement qui est en train de se faire, mais qui émane d'abord plutôt d'un contexte de survie que forcément d'une volonté de changer de vie. Par choix, mais plutôt c'est plutôt une situation subie qui a impulsé la transformation que forcément un choix militant et ce côté militant vient un peu plus par la suite que forcément de manière immédiate. Donc pour finir sur ça, donc c'est vrai que on est quand même face à deux dynamiques de projets de programmation urbaine qui sont complètement différentes, avec des types d'acteurs et des enjeux locaux quand même qui sont très, très différents. Et pourtant, même si on a les mêmes un peu des objectifs qui pourraient paraître similaires, on est quand même sur deux manières de s'emparer la ville, donc soit tout acteur politique, acteur, et soit tout habitant. Et l'implication habitante n'est pas toujours évidente, en tout cas avec projets comme ADESAO. Et le basculement politique, en tout cas dans le cas des SO, peut engendrer un échec ou un retournement de situation. Mais en tout cas, cette mise en discussion de ces deux cas, en tout cas dans le cadre de ma recherche, moi aussi avec les quatre autres cas que j'ai pu étudier, ont montré, mine de rien, la nécessité de mettre une synergie entre les différents acteurs, donc autant autorités publiques, acteurs locaux divers, habitants et équipes de maîtrise d'œuvre, pour qu'on puisse voir vraiment une réflexion à la fois ultra-locale, mais aussi dans une réflexion globale, collective et acceptée et appropriée par tous. Et mine de rien, ces initiatives par rapport à la ville en décroissance, où en fait, pour comprendre un autre aspect, c'est que la ville, quand on est dans un processus de décroissance, avant même qu'il y ait projet, on est quand même dans une situation où finalement la ville elle est figée. Donc si on abandonne, ça ne veut pas dire que la ville évolue. En fait, un quartier, un secteur de ville reste dans un état figé, sclérosé même. Et en fait, ces différentes initiatives permettent justement de réinscrire la ville quand même dans de nouveaux cycles, dans de nouvelles dynamiques. Même si on décide de délaisser un espace ou de s'en approprier ou d'en faire un espace ouvert, c'est un choix. Donc il y a un changement de regard quand même dans la perception de ce territoire. Donc je vais en rester là.